Bonjour. Je suis heureux de prendre la parole. Aujourd'hui, on n'a plus d'obligation, entre guillemets, donnée par nos anciens sur le thème des prédications. Et même si les petits prophètes étaient difficiles, c'était bien d'avoir cette certitude de savoir ce qu'on devait faire. Donc là, il faut piocher, la Bible est vaste, les sujets très nombreux, et il faut vraiment l'aide de Dieu pour essayer de trouver le propos cohérent qui pourra amener une petite pierre à l'édifice de nos foies, parfois un peu branlantes. Je voulais d'abord vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a peut-être un an et demi, je vous avais demandé de prier pour une amie qui s'appelle Grace, qui était venue une ou deux fois à l'église, qui était à l'église Saint-Laurent du Var, qui avait une grave maladie. La maladie, pour le moment, est apaisée, entre guillemets, et surtout, jeudi dernier, elle s'est fait baptiser à l'église de Saint-Laurent du Var. Donc, dans cette épreuve terrible qu'elle a traversée, qui aurait pu, au contraire, la détourner de sa recherche, c'est au contraire quelque chose qui l'a fait avancer vers le Seigneur et se baigner dans le bain de l'espérance du baptême quand on sait qu'on est à ce point en sursis. Je trouve que c'est un témoignage extrêmement fort et je voulais le partager avec vous. Vous avez noté qu'on est le 15 septembre, donc mercredi nous étions le 11 septembre. Et quand je réfléchissais à ce que je pourrais bien prendre comme sujet, en fait, cette idée du 11 septembre m'est revenue. Alors j'espère être suffisamment clair, et ce que je vais vous dire, j'espère que ça va vous interpeller, parce que le sujet tel que je vais l'aborder va être un peu particulier, mais malheureusement, je crois que c'est comme ça que je fonctionne, et j'espère pouvoir vraiment vous être utile, en quelque sorte. Parce que mercredi, il y avait un documentaire sur le 11 septembre, maintenant ça fait 18 ans, donc on n'en parle plus trop, mais sur une des chaînes, je ne sais plus laquelle, en zappant, je suis tombé sur ce documentaire sur le 11 septembre 2001, donc tout le monde sait ce que c'est, hein, c'est l'éclatement et tout, enfin l'attaque terroriste, voilà. Alors, ce qui était intéressant, c'est que c'était que des archives d'époque, évidemment, mais il n'y avait que les commentaires de l'époque. Il n'y avait aucune voix off qui disait, voilà, là les gens font ça, etc., enfin... Aucun commentaire de quelqu'un qui savait a posteriori ce qui s'était passé pour raconter cette tranche de vie. Que des commentaires de l'époque, des gens dans les rues au fur et à mesure, on suivait tous les événements au fur et à mesure, avec les commentaires aussi des journalistes, les quelques voilà, chaînes. Enfin, c'est un espèce de collage, minute par minute, pendant ces heures totalement tragiques. Et c'était très impressionnant, parce que c'était vraiment la mémoire des instants passés, mais comme si on le revivait au présent. Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, en revoyant ça, qu'à l'époque, personne ne comprenait ce qui se passait, sur place, et aussi à l'étranger, parce qu'ils montraient des informations, des journaux du monde entier. Toutes les hypothèses circulaient. On voyait dans New York, dans Manhattan, les gens qui fuyaient dans tous les sens, sans comprendre. Il y avait de la fumée partout, il y a comme un espèce de monstre qui avançait. Alors je pense que c'est des images que je vous fais revenir maintenant. Il n'y avait que des informations contradictoires qui étaient en place, et pendant ces 3 heures, c'était passionnant de voir le puzzle qui commençait à se mettre en place, justement, mais de façon totalement bizarroïde, et avec la terreur que les gens vivaient sur le moment. Alors nous, de l'extérieur, on avait une forme de terreur, je pense que c'était partagé, mais eux, sur place, c'était terrible, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne pouvaient pas savoir, ils n'avaient pas le recul pour dire « oui, c'est ça, donc on peut ». Et c'était donc, de ce point de vue-là, extrêmement passionnant. Ce ne fut qu'ensuite que l'histoire a pu se mettre en place. L'histoire avec un grand H a des explications, une dramaturgie, une chronologie qui rendait les événements compréhensibles. L'attaque des différents avions, le Pentagone, celui qui s'écrase en Pennsylvanie, l'écroulement des tours, l'intervention des pompiers, tout ça, après, prend sens et on peut l'inscrire. Mais sur le moment... Quand on est acteur de ce qui se passe, c'est totalement incompréhensible. Et il faut bien se dire que le présent, notre présent, ne devient compréhensible que quand il devient du passé. même sur notre propre histoire, sur le moment où on vit un truc, on comprend pas ce qui nous arrive. Puis plus tard, quand on a le tenant, les aboutissants, que l'histoire est finie, on dit « Ah oui, ça prend sens ». Et à ce moment-là, on peut comprendre ce qui s'est passé. Mais sur le moment, c'est très rare d'avoir ce recul-là. Les hommes et les femmes qui vivent l'événement au présent doivent réagir sur l'instant, sans l'intelligence que donne le recul de l'histoire. Un exemple tout bête, en 1940, que certains ont connu, en France, être résistant ou collabo, c'était pas si simple comme choix. Alors aujourd'hui, évidemment, quand on regarde ça, c'est évident. On serait des résistants, c'est clair, c'est net, mais sur l'instant, personne ne sait que Hitler va perdre la guerre. Et s'il avait gagné cette guerre, ce qui était possible à une époque, c'était être collaborationniste qui aurait été évident aujourd'hui. Et les résistants, alors, auraient été traités aujourd'hui de terroristes dangereux et qui n'avaient absolument pas le sens du monde, le sens de l'histoire. Donc soyons très, très prudents sur la lecture du présent que nous faisons lorsque ce présent est devenu passé. Et donc, ma question, c'est où étions-nous le 11 septembre 2001 ? Voilà, donc ça, je sais que tout le monde le sait, a priori, parce que les grands événements nous marquent tous, premier pas de l'homme sur la Lune, donc les attentats de Paris il y a quelques années, pour ceux qui n'aiment pas le football, la victoire en Coupe du Monde, par exemple, c'est des grands repères universels qui se mettent en place. Il y a une mémoire collective pour ces événements-là, où nous ne sommes, nous, finalement, qu'une infime partie du grand tout de la vie des hommes. Mais il y a aussi une mémoire individuelle pour les événements de notre vie personnelle, naissance, deuil, accident, amour, travail, on a tout ça. Et souvent, la tentation est grande de lier les deux. Par exemple, dans l'astrologie, ma naissance unique est liée à la course des astres des planètes, donc qui vont forcément interférer sur ma vie future, jusqu'à vouloir lire mon avenir personnel dans ces astres, dans ces étoiles. Je me sens tout petit, mais grâce à cette science, entre guillemets, j'ai le sentiment que j'ai un rôle à jouer dans le grand tout général, de m'inscrire dans l'histoire du présent pour mieux la comprendre, puisque je vais pouvoir essayer de la prévoir. C'est quand, parce que c'est en fait la grande question que se pose un jour ou l'autre chaque être humain. Alors vous connaissez le célèbre « Qui suis-je, dans quelle étagère ?» etc. Je peux se dire autrement, pourquoi suis-je là ? Ai-je de l'importance dans ce monde ? Le monde a-t-il de la considération pour moi ? Quelle est mon identité ? Ces questions-là, on se les pose tous à un moment ou l'autre, consciemment ou inconsciemment. D'ailleurs, alors pour répondre à ça, on fait des affaires, on fait des études, on gagne de l'argent, on veut être célèbre, on séduit des personnes, on crée une famille, on essaie de donner du sens à tout ce qui fait, en fait, le non-sens de nos existences, quand on met les choses bout à bout, sans le recul, peut-être qu'à la fin de nos vies, Sandra, tu en parlais d'une manière très prématurée, je trouve quand même, hein. Il y a d'autres qui sont prioritaires avant toi. Merci de nous laisser le ticket d'entrée. On te fera un signe, mais prends le temps. Quand on est à la fin, il y a des gens ici qui sont plus proches de la fin que du début, peut-être que quand ils regardent tout, ils se disent finalement, ça a du sens, ça avait du sens, même cette problème, cette rupture, cette détresse, cette joie, tout ça finalement prend sens. Mais on le sait que quand on n'est plus dans l'action. Et nos vies, en fait, ce ne sont que des actions. C'est ça qui fait que l'on vit. Quand on prend des photos, des films, finalement, c'est presque du temps perdu, parce qu'on regarde le passé, peut-être pour se rassurer sur notre présent. Mais à un moment ou l'autre, on se trouve nez à nez avec notre propre 11 septembre. Le jour où tout s'écroule, où tout part en fumée, où on court dans tous les sens, comme à New York à 18 ans, où on s'enfuit, où on est groggy, sans explication, où on ne comprend rien, où les tours de nos certitudes s'écroulent sous le choc de qui, de quoi. Ça, c'est votre histoire, c'est mon histoire, cela peut arriver à n'importe quel moment de la vie, sous n'importe quelle forme. Tant mieux si certains n'ont pas connu leur 11 septembre. Ça veut dire qu'ils ont été quelque part bénis, ou qu'ils ont réussi à manier leur barque correctement. Mais il faut se dire aussi, j'y reviens, que l'approche de notre mort sera notre 11 septembre à tous. Quoi qu'il arrive, car toutes nos tours écroulées qu'on a eues dans notre existence ont toujours un lien avec la mort. Une séparation, un deuil, un renvoi, un échec professionnel, un échec sentimental. Il y a raison de se sentir dévasté. Et ça, chaque fois, c'est une petite mort. C'est une disparition. Pourquoi ? Parce que c'est une disparition de nous-mêmes, de notre image de nous, de notre estime de soi, de notre identité. Et nous sommes si fragiles. Et dès qu'on perd quelque chose de notre identité, parce que quelqu'un nous repousse, parce qu'on perd quelqu'un, parce qu'on a échoué dans quelque chose où on espérait réussir, donc pour être reconnu, forcément, à ce moment-là, c'est comme si on mourait. Et la grande mort qui nous attend, c'est, et c'est ça qui peut nous faire peur, c'est que c'est la destruction a priori totale de notre identité, de ce que nous sommes, de notre image, de ce qu'on a construit. Et c'est pour ça que, comme dit la chanson, on a tous quelque chose de Tennessee Williams en nous, de Johnny Hallyday, créé par Michel Berger, on a tous notre 11 septembre à nous, à venir ou déjà venu, ou qui peut se répéter. Et là, aujourd'hui, on vous allez dire, mais qu'est-ce, de quoi il me parle? Ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Enfin, je pense, c'est en ça que je vous disais que ma pensée est un peu tortueuse. J'aimerais vous parler d'un 11 septembre qui nous concerne tous individuellement et qui, en même temps, concerne toute l'humanité et qui a été le pire de tous les 11 septembre qui peut être vécu dans l'histoire de l'humanité, pire que tous nos 11 septembre personnels à nous. C'est celui qui a changé la face du monde. C'est le 11 septembre de l'arrestation et de la mise à mort de Jésus. Et j'aimerais qu'on revive ce 11 septembre à la façon de ce documentaire que j'ai vu donc il y a quelques jours, vu au moment présent, par les gens qui y étaient, par ceux qui l'ont vécu heure après heure, sans comprendre le pourquoi ni le comment, parce qu'ils n'ont pas notre recul à nous, parce que eux ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Il faut s'imaginer la détresse, la terreur, le désespoir de la petite bande qui accompagnait Jésus à ce moment-là. Évidemment, ça ne s'est pas passé en septembre, c'est une date symbolique. Les disciples, les amis, hommes et femmes qui gravitaient autour de lui, car eux, je le répète, ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Ils ne savaient pas que Jésus ressusciterait, que le mal allait perdre définitivement. Imaginez leur angoisse devant tous ces événements de ce qu'on appelle le jeudi saint et le vendredi saint dans l'église catholique. Si des caméras avaient pu suivre ces hommes et ces femmes durant ces heures incroyables et tragiques, les images rejoindraient en horreur sûrement celles de mon émission de mercredi. Alors notre unique caméra, ce sont les évangiles. 4 témoignages de ces moments bouleversants. Alors on va utiliser a priori celui de Luc, un peu ceux de Marc, mais bon, ils se rejoignent tous. On va toujours essayer de se mettre à la place des proches de Jésus. Celles et ceux qui ne connaissent pas la fin de l'histoire au moment où elle se joue, qui n'ont pas le recul sur les événements. En se demandant, et si ça avait été nous, quelle aurait été notre réaction, j'allais dire résistant ou collabo. Le premier acte, c'est la préparation de la Pâque. Alors, je ne vais pas forcément lire les textes parce que ça serait long. Et puis surtout, je vois que des têtes connues, que des gens qui connaissent la Bible. Donc, on avance entre nous en terrain connu. Ce qui est intéressant de voir dans Luc, dans les premiers versets, c'est que déjà, le 11 septembre commence dans l'histoire par une tricherie. C'est que le verset 1 à 6, c'est Judas qui décide dans son fort intérieur de trahir Jésus et qui va donc voir les supérieurs romains et juifs pour essayer de voir comment ce qu'il peut faire. Ça, les disciples, les proches de Jésus ne le savent pas. Ça a été forcément ajouté après coup quand quand Luc a mené son enquête. Il dit, ah oui, vous me dites qu'il est venu vous voir un peu avant pour essayer de mettre la chose en place. Mais pour les disciples, rien. Ils n'ont pas lu ça. Ils ne sont pas au courant du tout. Et quand Jésus leur demande de préparer la Pâque, pour eux, c'est une Pâque comme les autres, malgré les menaces. Quand on prépare Noël, nous, avec notre famille, à aucun moment, on se dit, c'est nos derniers Noël, parce qu'on ne le vivrait pas de la même façon. Même si certains peut-être se disent, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais en fin d'intérieur, c'est très rare, à part si on sait que médicalement, on a vraiment un arrêté qui nous dit qu'il n'en a plus que pour 3 mois, ce qui doit être absolument épouvantable à vivre, on a toujours l'espérance où on se tait en nous-mêmes que ce n'est pas le dernier, il y en aura un autre. Et eux ne pensent pas que c'est le dernier, malgré les menaces qu'il y a autour d'eux, ils voient bien que leur maître est pourchassé, qui n'est pas apprécié par beaucoup, etc. Mais ils ne le savent pas, ils ne veulent pas le savoir, c'est la dernière. D'ailleurs, vous savez, dans les Bibles, il y a toujours des petits textes, des petits titres de sous-chapitres, pour, enfin, dans Jérémie, qui ont été rajoutés, évidemment, par les rédacteurs, bien longtemps après. Et là, dans ma Bible seconde, il y a marqué « La dernière Pâque ». Ben non, mon vieux, c'est pas la dernière Pâque du tout, c'est la Pâque. Alors, évidemment, c'est facile de dire « La dernière Pâque », après coup. Et nous, on le lit comme ça, mais ne le lisons pas comme ça. C'est pas la dernière Pâque. C'est la troisième, sans doute, avec Jésus. Et eux reçoivent pourtant la nouvelle du verset 15 au verset 20. C'est le texte que tu nous as fait lire, Sandra, et je t'en remercie. Quand il dit, voilà, je vais boire ce vin qui, et ce corps et ce pain qui sont l'image de vin, et je ne le referai plus avec vous. Parce que nous sommes arrivés à la fin, et c'est la dernière fois que je vais faire ça avec vous. Lui, il le dit, c'est clair. Imaginez, au sommet des World Trade Center, le 11 septembre, parce que c'était très tôt le matin, le patron de la grosse boîte, il a dit à ses employés, venez, on va faire un petit déjeuner, brainstorming, pour commencer bien bien la journée. Et à ce moment-là, une heure avant le crash, il leur dit, écoutez, ce petit déjeuner qu'on va prendre ensemble, c'est le dernier en fait. Dans une heure, je vais mourir, et sans doute vous aussi. Alors là, non, ça, c'est... ils vont pas le croire. Parce que c'est pas entendable. D'ailleurs, même Jésus dit, et le traître est parmi vous. Au sommet de votre instinct, il y a le gars qui, il y a le grand patron qui leur dit, écoutez, parmi vous, là, il y en a un, qui est un gars dangereux, un terroriste, je ne sais pas, mais lui, il a un petit boîtier pour donner le bip du GPS pour que, il y a un avion qui va venir, qui va se crasher là, à notre étage. Il est parmi nous. C'est exactement ce que dit Jésus à ses disciples dans la pièce du haut. Et tous ces employés en haut du World Trade, ils regardent le patron, ils disent, il est devenu fou. Comme les disciples ont regardé Jésus, ils disent, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est tellement vrai qu'ils en discutent entre eux. C'est marqué dans Luc. Ils en discutent entre eux, qui sait là, qui croire. Et juste après, quel est leur sujet de conversation? Quel est le meilleur d'entre nous? Les employés en haut, après que leur patron, il leur ait dit, écoutez, faites gaffe, parce que c'est le dernier petit déj qu'on prend ensemble, eux, ils disent, qui va avoir la meilleure promotion? Si toi, tu disparais, patron, c'est qui le numéro un après toi? Il y a quand même un manque de perception de la réalité. Mais c'est normal. Nous, après coup, on sait, on dit, oh, les bécassons, ils n'ont pas compris. Mais mettons-nous à leur place. C'est absolument pas acceptable, pas concevable. Et les avions s'approchent, et Jésus leur dit à nouveau, du verset 21 à 38, attention, Pierre, toi, tu vas me renier, tu vas te barrer de la tour, tu vas fuir, tu vas pas rester avec moi. Non, moi je reste. Oh, tu rigoles, moi, je reste. Ah oui, très très bien, mais tu verras. L'histoire du coq. L'autre qui dit, je viens apporter le drame, ça va être il va y avoir des affrontements. Et les gars qui se font, ils présentent deux petites épées. Des épées contre des bombes volantes qui s'approchent. Ils n'ont absolument rien compris. Mais comment aurait pu-il le comprendre? Comment nous aurions pu le comprendre? Parce que nous n'avons pas le recul. Acte 2, il les amène dans le jardin des Oliviers. Là, dans notre World Trade Center, ils ont peut-être été sur les petites terrasses herborées, qui est sur le, comment ils appellent ça, le fat food, je ne sais pas quoi, le place, enfin c'est un nom, le tap truc là. Et là, Jésus, lui, il entend le bruit des réacteurs qui s'approchent. Il sait, il demande à ses disciples de veiller en priant, parce que la fin est là. Nous qui savons la fin, Jésus demande ça, on sait que les avions ils vont venir se cracher. Tout de suite, on se met à prier, là, au sommet de notre terrasse. Mais eux, non, qu'est-ce qu'ils font? Après le petit déjeuner, ils vont faire une petite sieste au bureau pour prendre des forces, pour se rattraper peut-être de leur mauvaise nuit, parce que le patron les a fait lever très tôt. Le seul qui prie vraiment avec des angoisses absolues, c'est Jésus, c'est le patron, parce que lui, il sait que ça approche. Et lui, il a les grumeaux de sang qui tombent, parce qu'il sait ce que ça veut dire. Si nous l'imaginions, je pense que les grumeaux de sang, ils arriveraient à ce moment-là. On a les enregistrements des derniers instants, et on les a entendus dans le documentaire, des passagers de l'avion qui devait s'écraser sur la Maison Blanche, qui a été finalement, grâce aux passagers qui se sont rebellés, eh ben, ils ont réussi, entre guillemets, à ce que l'avion se crache dans la campagne. Ils sont tous morts, ils ont pu éviter un drame à Washington même, mais les derniers, tous les échanges par texto, par message, sont atroces. Parce que là, ces gens, ils ont compris, eux, que c'est fini. Et là, les grumeaux de sang, ils les ont. Les disciples, eux, ils s'endorment. Et on arrive à l'acte 3, premier avion qui s'encrasse dans la tour, qui s'incruste, paf, Jésus est arrêté. C'est ça le premier choc. Le premier avion pour eux, qu'ils prennent en pleine poire, c'est l'arrestation de Jésus. Jusqu'au jour, jusqu'au dernier moment, ils étaient persuadés que quoi qu'ils racontent, il y aurait des légions d'anges qui viendraient le sauver, que c'était pas possible. C'était pas ça le plan prévu. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, on panique. On essaie de sortir une épée, mais qu'est-ce que tu veux faire? Une espèce de lance d'arrosoir, un extincteur contre le feu qui jaillit de partout. Alors on attend des ordres du patron, il va sûrement trouver une issue de secours pour s'enfuir de ce brasier qui gagne du terrien, du terrain, non rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On panique, on se sauve, sauf qui peut. On dévale les escaliers pour échapper aux flammes. On fuit, chacun pour soi. On laisse le patron seul. Lui, il reste en haut. Judas, lui, à ce moment-là, il se rend compte de ce qu'il a fait. C'est à ce moment-là, dans Marc, que l'on en parle. Judas, il essaie de rattraper le coup. Il voit que c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il saute. Parce qu'il préfère se donner la mort plutôt que de mourir dans d'atroces souffrances, celle de sa conscience qui allait le griller petit à petit. Lui, il saute. Comme ont sauté, malheureusement, des centaines de pauvres gens dans ces tours. Tous ont pu fuir les flammes, heureusement. Nos proches, ils ont pu partir, sortir de ce jardin des oliviers, descendre de la tour, sans être pris, sans être attrapés. Ils ont fui, chacun se retrouve dehors, hagard, ils sont séparés. C'est la panique. Dans ces images en bas de la tour, c'était terrifiant. Les gens qui arrivaient à descendre des tours après le choc, mais c'est les hurlements. Ils ne comprennent pas. C'est quoi? C'est une explosion? Qu'est-ce qui s'est pas passé? Ils hurlent, ils partent partout, ils disent aux gens en criant « Partez !» Il se passe un truc incroyable, les gens qui voient hurler partir, ils partent en courant. Une espèce de panique générale qui se met en place. Pierre, lui, il va se réconforter en bas de la tour auprès d'un groupe qui reprend des forces. On l'interroge pourtant, on le connaît, mais t'étais en haut, toi, avec le patron, là. Il dit donc que c'est pas lui qui serait responsable de ce qui est en train de vous arriver, parce que ce mec, il avait un pouvoir incroyable, il connaissait du monde, à la CIA, au KGB. C'est pas lui qui a fait un truc comme ça. Non, moi je nie, j'ai rien fait. Puis il y a une première sirène des pompiers, une deuxième sirène des pompiers, troisième sirène des pompiers. Là, il comprend. Il se barre en pleurant. Il dit, bien sûr que je le connais. Je ne suis même pas resté avec lui et je l'ai trahi. Alors, les évangiles nous racontent ensuite le procès. Et ce procès, c'est le fruit d'un travail de journaliste d'investigation. Luc, pour raconter ça, il a été voir, c'est ce qu'il dit d'ailleurs au début de son évangile. J'ai enquêté, j'ai demandé, je me suis renseigné. Il est allé voir plein de gens après coup. Il n'est pas allé voir Ponce Pilate, évidemment. Mais vous savez bien, dans toutes les affaires judiciaires que l'on voit partout, il y a des fuites tout le temps. Ça n'arrête pas. Et je ne vois pas pourquoi, à cette époque, il n'y aurait pas de fuites, sauf qu'il n'y avait pas Twitter pour les faire passer. Mais bon, Luc, il écrit. C'est ça, notre super Twitter. Donc, il va voir des employés du Sanhédrin, qui étaient là quand Jésus est venu, qui a été apporté pour être d'abord jugé par les Juifs qui vont le renvoyer au palais de Pilate. Là, il a sûrement rencontrer quelques esclaves à la retraite. Et alors, moi j'étais dans un coin avec mon solo pendant que Pilate interrogeait Jésus. J'ai entendu, j'ai rien dit parce que je suis un esclave. Comme je parle cette langue-là, j'ai tout compris, j'ai jamais oublié. Il avait retrouvé des vieux invités d'Hérode à la fête où Jésus a été amené, qui était à moitié sous une vieille rombière, qui se dit quand même, je me souviens, il est venu, on s'est bien moqué de lui. Il a fait son enquête, il a pris toutes les informations à la volée des rumeurs. Voilà, il a tout pris pour que ça soit pas des rumeurs, il l'a écrit. Mais les gars sur place, les proches de Jésus, ce 11 septembre-là, ils savent rien, ils sont dehors. Ils voient qu'on amène Jésus ou un soldat qui est là, ils essayent alors qu'il s'est passé. Il paraît qu'il le renvoie chez Pilate. Bon, chez Pilate, à un moment, il le revoit, il sort, il a été frappé par les soldats. Ils imaginent, parce qu'il est complètement sanglant. Ils vont chez Hérode, ils essayent de suivre cette foule, de comprendre. Ils ne comprennent rien, parce qu'ils ne savent rien. Ils voient la tour s'embraser, ils savent pas si c'est un accident ou un attentat ou... Ils ne savent pas. Ils savent même pas si leurs disciples, si leurs copains à eux sont sains et saufs, s'ils ont pu s'en sortir. Pour eux, cette tour, elle était inébranlable, indestructible. Et il la voit vaciller sans comprendre, il la voit brûler. Cette vie qui pour eux était sûre, ces gars en haut là, ils avaient un super patron, ils avaient un super job, ils avaient un super salaire, ils avaient toutes les assurances qu'il fallait, la sécurité, qu'ils pouvaient se payer, ils avaient une femme, un mari, et tout. Ils disaient, j'ai une belle vie, je m'en sors, je struggle for life. Je fais partie du chapeau, j'ai réussi à protéger ma vie. Cette tour, c'est le symbole de mon Amérique vainqueur. Elle est en train de brûler, cette tour. Ils sont totalement perdus, totalement affolés, ils errent dans les rues. Et soudain, il y a une rumeur. Ponce Pilate va prendre la parole. On lui dit, allez au palais, on va vous parler. Et c'est ce qui est passé dans l'émission. À un moment, on dit, George Bush Junior va prendre la parole. Alors, on se retrouve devant les télés quand il y en a, etc. Parce qu'il y a des problèmes à New York de transmission. Le maire de New York aussi prend la parole. Ils vont essayer de donner du sens à l'indicible. Mais ce sont que les hypothèses qu'ils peuvent dire. Et sous le jardin, sous le palais de Ponce Pilate, il y a toute la foule qui est là pour essayer de comprendre ce qui se passe. Les amis de Jésus, et puis ceux qui ont été rameutés, puis ils disent, tiens, il y a un événement, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on bouge comme ça dans Jérusalem? Et en bas de la tour, Jésus est déclaré coupable. Il est condamné à mort. Et ça, c'est le deuxième avion qui vient s'encastrer dans la seconde tour. Non seulement la première, on la croyait inébranlable, mais il en restait une autre. Mais celle-là aussi, elle s'en prend un grand plein. Jésus est condamné à mort. Il n'est toujours pas libéré. Il y a eu une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la stupeur, les disciples sont hébétés, l'horreur continue, s'amplifie. La foule est rendue folle par ce nouveau crash. Dans le documentaire, quand il y a la deuxième avion, parce que les gens regardent, ils étaient là, c'est quand même, c'est incroyable. Et ils se voient, alors là, le premier, personne ne l'a vu. Quelques-uns, incroyable, mais le deuxième, tout le monde était là en train de regarder. Donc le deuxième, tout le monde l'a vu, ils ont vu l'avion arriver. Et on voit les caméras des gens, non. Et ils voient le, mais c'est horrible. Et là, on le voit sur ce documentaire, regardez, c'est passionnant, mais c'est, ce sont plus des humains qu'il y a, c'est plus des hommes et des femmes responsables d'une société et d'une culture riche qui a le goût. Ce sont des animaux perdus, ce sont des enfants, ce sont des gamins. Ça hurle dans tous les sens, ça part, ça devient dangereux même de rester là, parce que les gens se piétinent. Et les disciples sont pris au piège de cette foule désorientée, ils peuvent rien faire pour sauver le patron là-haut. Il va bien se passer un miracle tout de même. On va envoyer des hélicoptères porteurs d'eau qui vont éteindre le feu d'en haut. Il va se passer quelque chose. Bon sang, on est quand même la meilleure civilisation du monde. Ce Jésus, c'est le meilleur maître qu'on ait jamais connu. Il domine sur tout, il fait des miracles. Bon sang, fait ce miracle-là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginons-nous à leur place, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible. Quand on ne sait pas l'après, c'est épouvantable. Alors, il faut faire quelque chose. Le 11 septembre 2001, des gens, il y en a plein qui sont mis soudain à genoux, sur le trottoir. Des centaines de personnes sont mis à prier. C'est incroyable. C'est un peuple, les Américains qui ont une éducation quand même chrétienne. Donc, les réflexes sont revenus. Il y a des centaines parmi eux, ils prient. Il y en a qui fuient, d'autres qui prient. Mais il n'y a pas de miracle. Sans doute, Pierre, les apôtres, les femmes, elles ont prié, mais non, inexorablement, Jésus est emmené vers son calvaire. Jésus est crucifié. Le feu de la folie des hommes continue de brûler. Là, les disciples, ils ont disparu dans le tumulte. Ils ne peuvent même pas se joindre en eux, les portables ne fonctionnent pas. Pendant toute cette journée du 11 septembre, il n'y a plus un portable qui a fonctionné. Tout était fini, il n'y avait plus rien. Les gens ne pouvaient même pas dire aux autres où est-ce que tu es, est-ce que tu es vivant, est-ce que tu n'es pas vivant, il n'y avait plus rien. Et les disciples au milieu de Jérusalem ne peuvent même plus, ils sont un petit groupe, essayer de comprendre, de se réunir pour dire quoi, est-ce que tu as des nouvelles? Rien. Ils sont totalement perdus, seuls, toutes les liaisons sont coupées, plus rien n'a de sens. Aucune info viable ne circule. Seuls quelques-uns et quelques-unes ont pu finalement se retrouver au pied de la croix, au pied des deux tours en flammes, perdus dans la foule qui, elle aussi, regarde le drame. Ils sont pétrifiés, impuissants, incrédules devant ce brasier gigantesque qui est en train de consumer tout ce à quoi ils croyaient. Au moment où les deux tours flambent, plein de gens ont disparu, mais il y a un immense paquet de gens qui est resté. Et quand on les interroge, les pompiers disent « Partez, les policiers, partez !» Ils ne peuvent pas. Ils voient les gens tomber, ils voient ça qui s'écroule, c'est leur monde, ils ne peuvent pas. On voit des images où il y a des policiers qui les prennent violemment pour les réveiller, qui mettent des baffes, ils restent. Et puis, brutalement, c'est l'acte 4, c'est la mort de Jésus, C'est le dernier coup de massue, le coup de grâce. Non seulement les tours brûlent, mais soudain, elles s'effondrent, l'une après l'autre. C'est les versets 44 à 45 dans le chapitre 23. Jésus meurt. Et c'est le seul verset que je vous lirai, parce que il rejoint la vérité de l'autre vérité de la petite parabole que j'essaie de vous livrer. Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temps se déchira. S'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces derniers mots, cette obscurité allait tomber sur Manhattan. Quand vous voyez le film, j'avais oublié, au moment où les deux tours, l'une après l'autre, assez rapidement vont tomber, c'est un nuage gigantesque qui s'élève, mais gigantesque, provoqué par les effondrements. Un monstre de poussière, de gravats, de débris, qui monte dans le ciel et se répand sur Manhattan à la vitesse d'un cheval au galop, un linceul irrespirable qui plonge la ville dans une obscurité de fin du monde. C'est incroyable, cette image-là, exactement ce qui est dit là. Soudain, c'est l'obscurité, le voile du temple se déchire, tout tombe. Les gens sont dans le noir, et là, on voit les gens qui... Alors là, ceux qui regardaient comme ça, quand ça tombe, c'est fini. Là, l'instinct de survie qui reprend, c'est l'apocalypse. Rappelez-vous qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ont vu des avions rentrer, ils ne comprennent pas, il n'y a aucune information. Leur monde à eux s'écroule. Les disciples, ils voient Jésus sur la croix. Il est mort, il se fait percer. Les brigands se moquent de lui, les Romains rigolent. Et ils sont là, ils ne comprennent pas. C'est le monde, leur monde, qui disparaît. C'est leur espérance qui meurt. C'est leur vie qui est terminée. Et ils ne savent pas pourquoi. L'ignorance. C'est peut-être la pire souffrance que l'on peut avoir. J'ai lu quelques témoignages de gens qui, malheureusement, quand ils perdent un de leurs proches, surtout un proche qui est plus jeune, ils veulent absolument récupérer le corps pour faire une autopsie, pour comprendre ce qui s'est passé. Et ne pas pouvoir récupérer le corps, il paraît que psychanalytiquement, c'est un deuil atroce, supplémentaire, parce qu'on n'a pas l'explication qui permet d'accepter. Et donc, ce fameux nuage qui prend tout, c'est la débandade générale sur les images de New York. Les gens hurlent, ça fuit, ça part, les gens s'écrasent, il y a des chaussures partout, c'est tellement... Et le nuage arrive, il y a des gens qui sont restés avec leur caméra, et qui sont d'un, on voit, ils sont d'un, pfiouf, ils sont dans le nuage. Et là, il n'y a plus un bruit. C'est le silence total, il y a des choses qui flottent dans l'air, c'est l'obscurité, et ils ont tous des masques, ils essaient de survivre, de comprendre, et c'est terminé. Le monde est mort. Tout est fini. Tout était donc faux. Nos espoirs d'un monde inattaquable, sécurisé, effondrés. Toutes nos promesses d'un monde meilleur que nous promettait cette Amérique surpuissante, ce n'est pas vrai. La foule court partout pour échapper au nuage. De l'autre côté du pont, de l'autre côté du Golgotha, enfin à l'abri, entre eux, les disciples se sont retrouvés à peu près, sont brisés au milieu de tous les autres badauds qui regardent Manhattan consumé et dévoré par le nuage de la mort. Et ils regardent leur Christ pendu, la nuit qui est tombée. Les gens ont fui, une espèce de peur qui s'est mise en place. Même le centurion romain a dit « Oh là là, cet homme était vraiment spécial. » Et ils sont là, dans cette espèce d'obscurité dramatique où tout est foutu, tout est fichu. Et ils ne comprennent rien. Imaginons-les. Et le dernier acte, c'est l'ensevelissement, un peu plus tard. Ils reviennent. Sur le film, c'est flagrant. Au début, il n'y a personne. Tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Parce que ce nuage, on ne sait pas si c'est un nuage toxique, etc. Ceci étant dit, on a appris ces jours-ci qu'il y a des milliers de personnes qui sont atteintes d'un cancer qui serait normalement dû à toutes ces émanations qu'ils ont respirées. Tout le monde s'est barré. Et pendant quelques 20 minutes, un quart d'heure, il n'y a eu personne. C'était fini. Et après, ça s'est organisé, le nuage s'est un peu duré, puis les pompiers sont revenus, etc. Mais à un moment, ça s'est arrêté autour de Ground Zero, comme ils disent. Il n'y a plus un bruit. Alors les quelques disciples, ils s'approchent de la croix. Ils s'approchent du lieu du drame. C'est désert, il n'y a plus personne. Ils se retrouvent en silence. Ils ont un tissu mouillé sur la bouche pour essayer de respirer quand même, parce qu'ils n'ont plus d'oxygène, ils n'ont plus d'air. Notamment, ils suffoquent de cette de ce Jésus qu'on leur a enlevé, qui leur donnait la respiration. On leur a enlevé leur respiration. Il était dans l'oxygène, il n'y a plus d'oxygène. C'est l'abattement total. On fouille quand même les décombres, on essaie de trouver des survivants, et on tombe enfin sur le corps du patron qui est resté, lui, là-haut. Il est mort, évidemment. Alors on enterre à la vite, il y a un flic qui dit, écoutez, prenez-le, on est pas là pour faire des trucs. Allez-y, est-ce que vous le connaissez? Oui. Alors ils vont l'enterrer à Central Park, vite fait, sous une pierre dans un jardin, il n'y a personne de toute façon, vite, parce que déjà le corps commence à se décomposer. Et on se quitte sans un mot, vivant de l'extérieur, rescapé, brisé et apparent de cette journée d'horreur, mais mort à l'intérieur, parce que l'espérance a été brisée. Et tous ces New-Yorkais qui se retrouvent par milliers de milliers sur le pont, quand on voit les images, ils sont là. Alors ils pleurent entre eux, ils se regardent, ils sont... C'est... Que vivre après ça? Que faire? Qui va expliquer ce qui s'est passé? Alors déjà, les folles rumeurs circulent. C'est un attentat islamiste, un complot de la CIA. Les TV débitent des flots d'infos contradictoires. Réécouter ces informations d'époque, c'est incroyable. D'autres qui disent, mais non, Jésus, il n'est pas mort, vous l'avez enlevé sur la croix avant. Est-ce que c'était vraiment Jésus? Mais non, c'est quelqu'un qu'ils ont mis à la place. Ils sont totalement perdus. Et puis en plus, personne ne peut sortir de New York. Pendant au moins une semaine ou 15 jours, les avions bloqués, les trains bloqués. Les gens étaient là. Donc ils ne peuvent même pas rentrer dans le Kansas ou le Nevada ou le Texas où Jésus était venu les chercher. Il faut qu'ils restent à Jérusalem. Il faut qu'ils restent à New York. Ils ont la trouille, ils sont perdus. Ils ne savent plus. Ils ne savent pas l'histoire. Ils se regroupent dans un petit studio sur la 5e avenue et puis on attend. Mais on attend quoi? On ne sait même pas ce qu'on attend. Ne pas savoir ce qu'on attend. Alors la suite, je m'arrêterai là, vous la connaissez. C'est le dimanche, la tombe de Central Park qui est vide, et le patron qui frappe à la porte du studio, il est vivant. Et l'incroyable histoire qui se met en marche. Les tours sont debout, en dépit de toutes les apparences. Les tours sont debout parce que les tours sont en nous. Le temple n'est rien. Maintenant, j'ai mis les tours en vous, en moi. Et la bonne nouvelle à porter au monde entier. Depuis 2000 ans, nous sommes les successeurs de ce 11 septembre, le seul qui vaille vraiment, qui a changé le destin de l'humanité. Romain Gary disait, je vous l'ai déjà dit, avec l'amour d'une mère, l'amour vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. C'est vrai. Mais l'amour de Jésus, c'est l'antidote à cette vérité humaine de Gary. Nous, on peut dire, avec l'amour de Jésus, l'amour vous fait à n'importe quel moment de notre vie une promesse qu'elle tient toujours. Nos 11 septembre à nous, ils sont toujours soutenus par cet amour divin. Une certitude, malgré les corps qui se jettent dans le vide, les avions qui s'écrasent dans nos tours, la fumée qui nous dévore. Quelle chance nous avons, nous, de connaître la fin de l'histoire. Nous savons que quoi qu'il arrive, nous allons survivre. Même quand on s'en prend plein les tours, quand tout s'écroule, quand ceci, quand on court dans les rues, qu'on ne sait plus, qu'on n'arrive plus à respirer, qu'on voit que... On connaît la fin de l'histoire. Donc, on tient debout. On va y arriver. C'est extraordinaire. Nous avons en notre espérance. Son espérance, elle est en nous. Elle est indestructible. Et le baptême dont je parlais en préambule nous a libérés de l'aveuglement du temps présent. Des gens qui vivent au jour le jour et qui ignorent la fin de l'histoire. Nous, on connaît cette fin de l'histoire. Soyons-en dignes et reconnaissants de la connaître.